So you call yourself a fan? But tell me something. Do you know your Backmans from your Abrahams? Or your Jepsons from your Klopps? The People's Club needs all its people. You'll never walk alone, and neither should they. It's only united when we are. Get the idea? Because when you support a club, you support all of it. Watch the Barclays FA Women's Super League on Sunday, the 17th of November. Visit thefa.com/Women's Football Weekend. It's all to play for.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Nicolas Jamain.
Mais oui, l'after est là, comme tous les soirs de la semaine, du lundi au dimanche jusqu'à minuit, à la radio sur RMC bien sûr, et également à la télé sur RMC Sport News. On est ensemble jusqu'à minuit, ça veut dire qu'il nous reste deux heures d'after avec beaucoup de thèmes à évoquer, notamment le poste du numéro 10 à l'occasion de la sortie d'un livre, excellent livre, titré L'Odyssée du 10, le hashtag Mon 10 de cœur, c'est un carton sur nos réseaux sociaux, évidemment, beaucoup de...
Quels sont les noms qui tombent? Il y a des Argentins.
Pastore, là, à l'instant, je dis.
Ah bah oui, oui, Pastore. Les Argentins, ça tombe.
Parce ah bah attends, mais c'est le pays du 10, là. Argentine.
Ouais,
elle dit.
Ouais, mais bon.
Oui, mais ça déclenche toujours de l'affect, même si.
Ouais, mais enfin, ton 10 de cœur, c'est-à-dire celui qui trouve le.
Ah, bah non, mais.
Pastore.
Vous l'avez compris, Pierre Ducrot est toujours là jusqu'à minuit. Daniel Riolo est toujours là jusqu'à minuit. Et on accueille. Un homme qui est devant les accusés ce soir, mais qui va se défendre. Bonsoir à tous. Ah Jérôme Rotten est avec nous ce soir.
Je suis son avocat. Hein. J'étais ton avocat tout à l'heure, tu m'as entendu?
Non, j'ai rien. J'ai même pas écouté. Avocat,
gros soupçon de tricherie. J'ai pas écouté l'after. Gros soupçon de tricherie.
Tu nous as menti, toi, sur les SMS de Jérôme. Alors, c'était pas lui.
Non, tu rigoles ou quoi? Tu veux les voir? Tu veux qu'on les poste?
C'est pas lui. Il a un community manager privé. Hein.
Ah, ah oui, d'accord. Il est pas encore, en fait.
C'est pas moi qui m'occupe.
En fait, il y a un mec qui écoute l'after pour lui, tu sais.
Les réseaux sociaux, c'est pas quand même moi qui l'ai. Attends, il manquerait plus que ça.
Comme Jean-Michel Aulas d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Jérôme, tu défendras tout à l'heure avant le quiz de Jérôme Thomas à 23h40. Oui,
défendre de quoi?
Bah, y a des accusations de tricherie, on m'a dit
après,
ça.
C'est pas nouveau, je suis habitué. Ah, mais...
Ok, allez, on avance.
Non, mais attends, là, moi je veux savoir quand même.
Oui. Tu verras, tu seras là.
Ce Pierre n'était pas au courant, mais il est pas. Pourquoi t'as
pas grandi
loin du 9-2 en Belgique?
Non.
T'as pas grandi loin du 9-2 toi pourtant?
Non, mais moi
j'ai grandi où toi?
Saint-Gall.
Moi le Val d'Oise au départ, après le
Saint-Gall. Tu connais pas
l'Union de Saint-Gall?
Ouais, c'est vrai, mais c'est ça. Mais moi j'entends.
C'est 11 fois.
L'Union de Saint-Gall.
Quand tu dis ça,
garde ta défense, c'est ridicule.
Saint-Gilles.
Saint-Gilles. Si vous le dites à la française, oui, à Saint-Gilles, je vais pas dire Saint-Gilles.
C'est quoi, je pense qu'on va appeler. On va appeler un Belge. Jérôme Thomas en régie, on va appeler un Belge. On va dire comment on prononce.
Je bosse un peu en Belgique.
L'Union Saint-Gilles.
Effectivement, je l'avais jamais entendu prononcer comme ça.
C'est possible.
Avec l'accent de chat. Où ça donne ça?
Oui, ou peut-être que.
Sacha, t'as vu Olieri. C'est lui qui
fait. Peut-être que t'as des. C'est l'accent flamand, peut-être, tu vois. Ils disent pas Saint-Gilles, Saint-Gall.
Single.
On revient là-dessus à 23h40. Voilà, messieurs, centième de Deschamps.
Qui croit que c'est en Suisse.
Centième.
Galles, oui.
Arrête.
En Suisse.
Moi, j'ai dit que allez, je
stop,
disais, hein,
stop, stop.
J'ai pas compris.
Centième de Deschamps. Dimanche soir face à l'Albanie.
Ah bah là,
demain,
c'est Rome, hein,
demain la 99e. Dimanche soir la 100e de Deschamps. Maintenant. Et nous, on s'est dit, on prépare l'émission. Et si, je sais pas si on l'a déjà fait. On faisait un bilan en posant cette question. Deschamps est-il d'ores et déjà le meilleur sélectionneur de l'histoire du football français? On a des chiffres à l'appui, on a bossé. Deschamps, je vous les donne, c'est 98 matchs à la tête des Bleus, 63 victoires, 18 matchs nuls, 17 défaites, ratio 64,3% de victoires. C'est pas le premier. C'est qui le premier? Le meilleur ratio.
Aucune idée. Quelqu'un qui est resté moins longtemps, donc.
Un homme qui t'a fait confiance.
Jacques Santini?
Ouais.
Ouais. heureusement qu'on se bat pas que sur les chiffres.
Vous allez respecter Jaco, non?
Mais attends. Ah non, mais bien sûr, mais heureusement qu'on se base pas que là-dessus.
Mais respectez Jaco.
Non, mais d'accord, Jaco,
champion de France avec Lyon.
Ah ouais, non, mais c'est vrai.
Il entraîne un big club. Il est rentré dans l'histoire de Tottenham.
Big club Tottenham.
Voilà. Et
Tottenham, c'est bien le club anglais, il n'y a pas d'accord.
Le pauvre, il ne restait que deux ans. Donc
2002-2004, effectivement. 78,6% de victoire pour Jacques Santini. Troisième et quatrième, Roger Lemaire et à égalité, Aimé Jacquet. Est-ce que vous savez quel est le pire ratio d'un sélectionneur en équipe de France?
Franchement,
Bon, alors, qui détient le pire ratio?
Raymond Domenech.
Alors ce serait trop fort.
Non, il peut pas avoir.
Non,
un,
non, non. À son époque, il a 52 et quelques pourcents. Non, non, c'est pas le temps qu'il est resté. Franchement, c'est pas très glorieux.
C'est qui?
Le pire. Ça remonte.
Ça remonte.
Ça doit remonter à avant.
Ça remonte. C'est à,
doit être avant.
C'est avant les années 1967.
Ah ouais. Ah ouais, bon, moi, tu m'as perdu. Bon.
Justo.
Ah oui, Fontaine. Non, mais attends. Ah, mais
Juste Fontaine.
Il restait tellement
deux sélections.
Mais oui, mais
deux défaites. Deux défaites.
Mais oui, mais non, mais ça tient pas.
C'est 100%. Ouais, ça tient pas. Non,
c'est un ratio, les gars.
Quelqu'un au moins qui soit resté une bonne année.
Oui, mais même plus
non, quelqu'un qui est resté au moins deux ans pour préparer une compète.
Qui est préparé et qui a joué la compète.
Voilà. Oui, voilà, c'est ça.
Sinon, ça
donc Santini est le patron. 2002-2004, il a resté deux ans.
Platini doit avoir un super ratio.
Il n'est pas dans le top 5.
J'ai regardé. Parce qu'il gagne tous les matchs de qualif.
Ouais, en 92, mais entre 88 et 90, ils ne vont pas à la Coupe du Monde. Donc à ce moment-là, le ratio ne doit pas être mauvais non plus.
Ouais, je vais vous le donner dans un instant, bien sûr.
Ouais.
Tu sais, quand même, quelques défaites.
Ouais.
La question, bah, je commence par toi, Jérôme. Hein? Est-ce que Deschamps est le plus grand sélectionneur de l'histoire du football
écoute,
français?
Tu peux me sortir tous les chiffres que tu veux, mais c'est déjà celui qui est resté le plus longtemps à la tête de l'équipe de France, qui est encore au moins pour deux ans.
Ça fait combien de temps qu'il y est, Deschamps?
2013. Donc, 2012.
Enfin, après l'Euro 2012.
Bah oui, donc 2012.
Il n'y a pas eu plus?
Il a commencé en...
Non, mais il n'y a pas de sélectionneur qui est resté plus longtemps.
Non, il a le record de matchs en tant que sélectionneur.
Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'en termes de, durée,
c'est le plus.
Il va nous faire un 10
ans. Hidalgo a fait 8 ans.
Ouais, Hidalgo.
76-84.
Eh ben alors, on n'est pas loin.
Donc, si tu veux, si tu prends...
Domenech, 2004-2010,
6 ans.
Ah, c'est 6 ans,
pardon.
Ouais, j'ai mal, moi, t'as raison, c'est Hidalgo pour l'instant.
Ah oui, c'est Hidalgo qui a eu grand terme de durée.
Ça va être Deschamps, il fait 2020 et sûrement 2022.
Voilà, parce que la prolongation
à 1 euro,
ça sera
lui. Ça va être.
Bon, alors là, il peut se passer, messieurs.
Ta réponse,
qui vous dit qu'il va aller au bout.
Mais sur le. Bien sûr.
Il y a plus de 32-16 également. T'es obligé de retenir déjà ce qu'il a apporté, les titres. Il y a eu une finale de l'Euro, il y a eu le titre de champion du monde. À ce que sache, il y en a eu que deux. Donc, Aimé Jacquet avait une place très forte et c'est normal. C'est lui qui a ramené la première Coupe du Monde à la France. Didier l'a fait avec cette génération. On est obligé de reconnaître que c'est la légende à la tête de l'équipe de France. Après.
C'est le critère résultat palmarès.
Excuse-moi.
Non, mais c'est important.
Oui, oui. C'est
mais est-ce que c'est décisif?
C'est très important. Non, parce que, à l'arrivée, oui, c'est décisif parce que. Je sais pas, dans quelques années, tu retiendras ça. La génération qui a pas connu les joueurs actuels.
Ah, pas que.
Mais on retient ça ou des émotions aussi?
Michel Hidalgo, par exemple, pour parler de lui.
Je te parle pas de nous. Je te parle pas des gamins qui, là, aujourd'hui, ont 5, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, où ça marque. Forcément, tu regardes l'équipe de France jouer et que peut-être que le prochain sélectionneur, après Didier Deschamps, apportera des choses différentes dans le jeu et que, on fera comme nous le bilan, c'est-à-dire que moi, quand je regarde l'équipe de France, j'étais gamin de 82, j'ai pas trop de souvenirs, j'avais 4 ans, mais 86, j'en ai énormément de souvenirs. Franchement, cette équipe de France-là m'a régalé. Et c'était pas Didier Deschamps le sélectionneur, c'était Michel Hidalgo.
Avant, c'était
Hidalgo jusqu'en 84, et après, il y a eu Henri Michel. Et ben, eux m'ont marqué. Bien sûr, ça m'a marqué, et je me dis que. J'ai du mal à comparer, même s'ils sont restés moins longtemps que Didier Deschamps, j'ai du mal à comparer. Mais si tu vois, t'es obligé de retenir le palmarès, ce qu'il a apporté. En plus, il faut se rappeler quand même que quand il reprend l'équipe de France, il y a un travail qui a déjà été fait en amont avec Laurent Blanc.
Guérison,
mais
quoi.
Franchement, on partait de très 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 loin en termes d'image. Hein, je vais pas te rappeler les.
En termes de tout, même.
Ouais, en termes de tout, image, résultat et tout. Donc le travail qu'il a mis en place et ce qu'il a réussi à mettre et le groupe qui vient, qu'on soit d'accord avec les joueurs qu'il appelle, la façon de jouer où on s'emmerde par moment, ok, pas de problème. Mais au moins les joueurs, ils respectent ce maillot, ils sont contents de se retrouver et encore plus depuis qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Donc pour tout ça, c'est une vraie réussite.
C'est ce que nous dit ce Direct Studio. Kev Viking Deschamps, en plus d'apporter une Coupe du Monde, il a apporté une nouvelle image. De nos bleus.
Ben oui,
aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plus de monde qui veut regarder les bleus. Bon, après, c'est l'effet.
Mais tu le sens quand tu vas au Stade de France. C'est simple. Tu vois au Stade de France, tu vas au Stade de France, l'ambiance aujourd'hui du Stade de France n'a rien à voir avec l'ambiance d'il y a 6 ans.
Ça correspond aussi à une époque où la communication n'est plus la même aussi. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de comparer les différents sélectionneurs dans le temps.
Non, mais en fait,
ils n'ont pas eu, alors déjà, ils n'ont pas eu tous la même matière dans les mains.
Tu compares si tu as connu. Et ce pourquoi moi je me bats toujours, c'est que il faut absolument entretenir l'histoire et s'intéresser à ce qui s'est passé, même quand t'as pas connu, savoir qu'est-ce qui a été important. Je l'avais dit soir, les jeunes, si lire ça vous emmerde, si vous aimez le foot, au moins lisez des livres de foot et des livres d'histoire du foot. Se faire raconter les histoires comme quand on écoutait la radio. Puis d'ailleurs, l'After est une émission de radio à la base. C'est bien aussi quand on se fait raconter des choses pour mesurer l'importance des événements, même si on les a pas connus. Moi, j'en ai quand même connu beaucoup. Deschamps est largement dans le top 3 pour tout ce que vient de dire Jérôme. Il a raison, parce que quand t'es à ce point en bas, que t'arrives à tout reconstruire, à faire en sorte qu'on regarde à nouveau les Bleus qui avaient dégoûté tout le monde, en quelques années, à l'Euro qui est organisé en France, tu perds en finale et que 2 ans après tu gagnes la Coupe du Monde.
Donc Aimé Jacquet y est aussi.
Évidemment, dans le
parce
top 3.
Parce que c'est un peu le même, le même schéma.
Il avait pris par terre. Donc, moi, je mets Hidalgo en 1, mais je l'ai expliqué tout à l'heure. Parce que j'aime, moi, quand on construit. J'aime quand on bâtit. Et en fait, effectivement, le point commun de ces trois-là, c'est de récupérer des Bleus qui sont pas forts. Mais Hidalgo, c'est carrément des Bleus qui n'existent plus. C'est un peu l'équivalent à l'époque de Saint-Etienne. C'est le foot français n'existe pas. Il y a pas d'existence, de traces, de quoi ou qu'est-ce. Il y avait 58 que je n'ai lu que dans les livres, la fameuse histoire du France-Brésil.
Mais comment tu veux vivre une émotion
Et d'ailleurs, Bateux est resté un type très important dans l'histoire du foot français. Hidalgo arrive après des années absolument terribles où il s'est rien passé, où tu perdais à peu près contre tout le monde. Ouais. Et c'est, je le répète, en parallèle avec l'épopée des Verts, 76, que Hidalgo arrive, qui reconstruit l'équipe avec des joueurs emblématiques. Et il y a d'abord, faut quand même la qualification pour la Coupe du Monde 78. Hidalgo est porté en triomphe. Il pleut au Parc des Princes le soir de France Bulgarie. Lui pleure, il est en larmes. C'est un événement national, quoi. Juste parce qu'on va à la Coupe du Monde. Parce que la France n'y allait plus, on savait plus ce que c'était.
Ouais, c'est
extraordinaire, je me souviens toujours. Lui, avec son cahouet, il avait la main à capuche. Il avait la capuche.
Nous, on a revu les images.
Moi, j'étais devant la télé, il pleure et je me dis, j'ai 8 ans, et je me dis, putain, ça a l'air d'être. Tu vois, je prends conscience que c'est méga important ce qui s'est passé là. Après, t'as la Coupe du Monde 78 ou 9, y être, c'est déjà incroyable. Et perdre contre le pays organisateur, l'Argentine, qui en plus t'en tourloupe un peu, c'est presque normal. Perdre contre l'Italie, c'est normal, parce qu'ils sont beaucoup plus forts. Tout le monde est plus fort que toi, donc déjà t'es content. Après, tu te requalifies dans un groupe super dur, parce qu'à l'époque, c'est qualifié, c'était très difficile. Tu te qualifies dans un groupe où t'as les Pays-Bas, qui ont été finalistes 74, finalistes 78, qui est une grosse nation du foot. Ils sont dans ton groupe au même titre que la Belgique, qui est une grosse nation de foot à ce moment-là. Il y a l'Irlande. Et tu te qualifies dans ce groupe-là. Tu vas en 82 à la Coupe du Monde. T'es même pas réellement outsider, tu fais des matchs fantastiques. Toute la période, t'es champion d'Europe après. Bon, Henri Michel, oui, il faut pas le nier, évidemment, grand personnage du foot, mais c'était le fils spirituel. Il reprenait le groupe, quoi.
C'était la suite.
Donc, ouais. Hidalgo en 1, mais après, je mets même Deschamps, parce que je pense qu'il incarne l'équipe de France. Moi, j'aime pas sa vision du foot.
Mais c'est le boss, quoi.
Mais c'est le boss. Il incarne les Bleus.
Est-ce que la France en avait besoin, son parcours
de joueur avant compte un peu aussi, peut-être.
Aussi, il a les Bleus sous perfusion. Il a été champion, capitaine des Bleus champions du monde.
Gagné.
Et il est. Donc, je le mets juste après. Et Aimé Jacquet, parce que lui aussi, il a ramassé l'équipe de France qui était dans le caniveau à un moment.
Il a morflé.
Il a morflé et il était champion du monde. Et c'est un beau trio, je trouve. Je trouve que c'est un très beau trio.
Pierre. Trio du foot. Nous appelons au 32-16. Bienvenue dans l'After, Pierre.
Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir.
Salut.
Tout le monde.
Bonsoir Pierre. Bon, c'est qui ton numéro 1, toi, à la tête des Bleus?
Eh ben, j'ai un peu le même trio que Daniel. Je mettrais Hidalgo, Jacquet, Deschamps pour moi.
T'as quel âge, parce Pierre que, juste.
J'ai 38 ans.
D'accord. Oh, Hidalgo, tu l'as à peine connu, quoi, du coup.
Bah Hidalgo, ouais, moi c'est.
Même pas.
Pas connu en fait, parce que j'ai pas trop de souvenirs entre ma date de naissance et 84. Voilà, mes premiers soubresauts de souvenirs foot, c'est 86. À 5 ans, je me rappelle des petites images quand je regardais avec mon père.
Ah ouais, donc Hidalgo en claquette, en short, t-shirt, dans
à la Coupe du Monde 82, l'image, parce que franchement, il était à la cool, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Avec ses claquettes et le short, là.
Et pourquoi Hidalgo,
pour les coachs aujourd'hui?
Moi, la question, Pierre, c'est pourquoi Hidalgo quand tu l'as pas connu, en fait? Parce que Daniel, t'as raison, la transmission, c'est important.
Mais il est petit.
Mais ce qu'il fait, c'est l'émotion aussi.
Non, mais il était petit.
C'est le changement d'émotion, je suis désolé, mais. Non, mais je veux dire, moi, je vais pas te dire que mon sélectionneur préféré, c'était José Arribas ou Jean Snella, ou tu vois, ou.
Ça, tu reviens loin.
Michel Hidalgo, je suis trop jeune.
Non, mais oui, mais
j'ai pas vécu l'émotion d'Hidalgo. Tu
Hidalgo,
vois
on a tous vu les images de Platini quand
oui,
mais
j'ai pas vu qu'en direct.
On a tous vu le carré, ouais. Machin, tout ça, je comme comprends. Disait Daniel. Et Hidalgo, si on aime le foot, il nous marque, si on aime le foot et l'équipe de France. Hidalgo, forcément, si on s'intéresse au foot,
oui,
on
est mais tu le vis par procuration, voilà, ça.
Oui, tu le vis par procuration, c'est bien de le savoir. Okay. Mais après, c'est vrai que chacun est renvoyé
non,
mais
à ses oui, c'est pas forcément. Si vieux que ça. Quand il a 10 ans, Hidalgo, c'est pas si vieux que ça. Donc, peut-être que, je sais pas, son papa ou quelqu'un d'autre lui montre les images.
Sûr,
ou...
Oui, mais c'est.
Mais
c'est
lui qui lui vit avec des forces en
Jérôme, Nico a raison.
Excuse-moi, Pierre. Il a raconté France-Allemagne 82.
Ouais. Oui, moi, il raconte des belles histoires, c'est vrai, mais je préfère les vivre en direct. C'est là que je retiens encore plus.
De toute façon, on reste des passionnés de foot, et encore plus quand on fait ton métier avec Pierre après ce qu'on a fait, mais bien sûr qu'on regarde, on lit surtout les cassettes que tu regardes à l'époque, les cassettes de 82, de 84, donc il y a oui, il peut y avoir une sorte d'émotion, mais elle est pas moi c'est pour ça que je suis marqué plus par 86, parce que là 86 je l'ai vécu. J'ai vécu les matchs à fond, en famille, le France-Brésil.
La première grande émotion.
C'était magnifique. Voilà. Et c'est pour ça que Henri Michel, pour moi, et après, je le place même au-dessus d'Hidalgo sur cette équipe qui était fabuleuse à voir jouer, même si elle a été mise en place avant par Michel Hidalgo et qu'Henri Michel a profité de la suite d'Hidalgo. Mais quand même, Henri Michel a apporté quelque chose de fabuleux aux jeunes gamins que j'étais à l'époque et aux jeunes passionnés.
Il a réussi à continuer, quoi.
Mais ouais,
c'est ça,
mais c'est bah oui, non, ouais. Pierre, t'es pas d'accord.
Non, on a le même âge.
L'histoire d'Henri Michel s'est mal terminée, quand
même. Non, mais on a le même âge, effectivement, mais pour moi, Hidalgo, j'ai plein de souvenirs et moi je suis pas d'accord.
Après,
avec toi,
toi,
Nico.
Si tu préfères
moi,
faire rouiller,
moi je pense que bon, non je pense que quand on te transmet, quand on te montre des images, ça dépend avec qui tu le vis, quoi. Si c'est quelqu'un de très proche qui te parle de ce qu'il a vécu comme émotion quand t'es petit, que t'as 8, 10, 12 ans, mais tu as l'impression de le vivre avec ton papa, avec ton ça me l'a fait pour le rugby par exemple.
Tu relis l'émotion de ton
qui a adoré le rugby à l'époque de Jean
Pierre. C'est bien, attendez, dénigrer ça.
J'ai aimé le rugby mais grâce à lui, et du jour où j'ai pu regarder le rugby avec lui, moins d'intérêt.
D'accord.
Voilà, donc c'est moi je pense que quand on te transmet quelque chose, ça dépend de qui c'est déjà.
C'est profond comme sujet.
Et comment on le fait.
Merci Pierre d'avoir appelé au 32-16. Sylvain nous a appelé également. Bienvenue dans l'After, Sylvain.
Oui, bonjour à tous.
Pierre Ducrot, Jérôme Roten et Daniel Riello t'écoutent. Qui est ton numéro 1, toi?
Bonjour Sylvain. C'est très parisien ce soir.
Pas moi, je peux parisien.
Parisien, bah Daniel.
Moi non plus.
Daniel non plus. Non, Daniel non.
Bah oui, Jérôme et Pierre, oui.
Vas-y, Sylvain. Supporter oui, marseillais,
moi,
je
vais essayer là. On va moi, pas... pour compléter ce que vous disiez.
Ça te dérange, faut pas appeler.
Un peu jeune, à 33 ans, mais moi, il me semble que Didier Deschamps est plus un entraîneur typé club qu'un sélectionneur à proprement dit. C'est-à-dire qu'il, je pense qu'il veut gérer beaucoup de choses. Il a aussi un historique de trophées. Dans différents clubs qu'il a pu entraîner et c'est vrai que si on le compare à certains sélectionneurs qu'on a pu connaître, je pense que ça fait la différence sur l'approche complète sélectionneur-entraîneur. Parfois on a tendance à dire que on voit mal des sélectionneurs à l'entraîner des clubs et vice versa. Je pense que lui il peut tout faire, quoi. Didier Deschamps.
Ouais, la plupart des sélectionneurs sont passés dans des clubs avant en général. C'est le cas de beaucoup, enfin la plupart des sélectionneurs quand même. Tu veux dire oui, parce qu'il a réussi ou parce qu'il a gagné
pas
ou
pas forcément. T'as vu les mecs des fédérations, bah non.
Voilà, c'est ça.
Regarde Joachim Löw.
Non mais tu vas en trouver. Je suis d'accord. Non mais tu vas en trouver.
Mais la plupart, si tu fais à une époque, c'était des mecs qui étaient pas estampillés club. Le champion du monde 82, c'était un mec de Fédé. Le Vicini qui ensuite fait finale.
Je suis d'accord avec toi. Tu vas en trouver. Et tu as raison. Mais la plupart, je pense, sont passés par des clubs aussi. C'est pas exceptionnel, quoi. Le parcours.
Vas-y Sylvain.
Non mais il y en a beaucoup qui sortaient du système. Domenech par exemple, quand il est nommé, c'est le système.
Oui, il a rien fait avant, rien après.
Ouais, il appartient à la même institution, quoi, de la fédération.
Il a rien fait ni avant ni après ni pendant.
Ouais.
Ah si, il a écouté Zidane, c'est déjà bien.
Oui, c'est vrai.
Bah oui.
Il y en a, ouais, il y en a quand même.
Il a pas eu le choix en plus. Hein. À de l'écouter, non, je te confirme qu'il a
voilà, c'est ça, c'est pas lui qui l'a choisi.
Non. Merci Sylvain.
Ça me fait penser à une blague qui était assez drôle.
Attends, laisse merci Sylvain. Merci Sylvain, excellente soirée merci à toi. Sylvain. Vas-y, bonne soirée.
Comme quoi tout le monde savait l'histoire que tu racontais, et j'avais oublié qu'on le savait même, même ailleurs qu'en France. Le matin de la finale de 2006, à la une de la Gazzetta, il y a une blague qui disait Marcel Olipi annoncera la composition de l'équipe des finalistes le matin du match.
Ouais. Zidane, lui, Zinedine Zidane le fera.
Et le 11 de l'équipe de France sera communiqué à Domenech une heure avant le coup d'envoi.
C'est bon.
Donc on le savait même partout.
Bien sûr.
Quoi.
Il y a beaucoup de réactions sur le thème. Deschamps est-il le plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France? T'as Michel qui nous dit.
Pour Zidane, le meilleur sélectionneur. Donc, du coup.
Tu vois, je parlais tout à l'heure, de pollution. Tu vois.
C'est une bonne blague, Nico.
Oui, non, là, c'est vrai. Je pas, là.
J'ai même pas entendu en plus.
Nicolas, je trouve un peu dur.
J'ai même pas entendu. Un peu dur. Je crois que Jérôme n'a pas ri à ta blague non plus en même temps.
Il n'écoutait pas, il a envoyé un message. C'est normal.
Non.
Non, mais moi, je partage avec Daniel.
Ça dénonce.
Tu sais, je suis pas dans un grand public. Daniel me suffit.
Ouais, mais c'est bien de
plaire. Je demandais si on pouvait voter pour Zidane, du coup, comme sélectionneur.
De 2006.
Ouais, ça.
Ouais.
T'as raison.
Du coup.
Tiens, Michel nous dit, je me souviens d'Hidalgo quand l'équipe jouait pas bien en première mi-temps. Il savait transcender l'équipe. Moi, j'attendais la mi-temps et je savais qu'il allait trouver la solution. C'était le meilleur. On nous dit, Roger Le Maire, vous l'avez oublié?
Non, là, on en a parlé.
Je l'ai pas oublié, mais je le mets pas dans mes.
Ouais, on a gagné l'euro.
Oui,
c'est difficile.
Oui, mais là, c'est pareil. Évidemment, c'est un peu le.
Oui, mais il hérite quand même.
C'est
un
peu comme Henri Michel.
Voilà.
Il hérite d'un groupe quasiment en autogestion.
Voilà. Henri Michel. C'est ça, absolument.
Ah, mais surtout que là, on disait que Didier avait fait, donc, quasiment 8 ans. Après le 8 ans, 2008 ans. Tu peux lui rajouter les deux ans après la Coupe du Monde, oui. C'est un peu lui, le sélectionneur aussi.
Ah oui,
Roger Le Maire. Oui, c'est vrai.
Ah oui,
ça fera 10 ans en fait en 2020. Ben oui, Roger, fidèle adjoint d'Aimé Jacquet, il est arrivé, le groupe était en autogestion. Voilà pour le débat Deschamps. Est-il le meilleur sélectionneur? C'est lui qui a le meilleur ratio dans les grandes compétitions internationales également. Forcément, il a gagné la Coupe du Monde, quart de finale d'un mondial et finale de l'Euro. Pierre Ducrot, Jérôme Rotten, Daniel Riolo. Et dans un instant, bien sûr, on va parler numéro 10. Numéro 10, le poste peut-être le plus...
Plus là.
C'est pas un vrai numéro 10. Non, rien à voir. De quoi tu parles?
Déjà, j'ai déjà été 10, mais...
Oui, mais en 8. Mais
quand poussin. Quand le coach
a eu le choix. Le numéro 10, c'est celui qui a...
Non.
Comment il contrôle le ballon.
C'est le mec au centre du jeu.
Non, c'est pas que ça.
Non.
Je sais que c'est pas que ça.
Stop, parle après la pièce.
J'espère qu'on commence pas un débat comme ça, moi.
Le 10, c'est un soleil avec les rayons. Toi, t'es sur le côté. Il y avait des nuages un peu.
Non, il n'y a pas
de tribune qui.
Il n'y a jamais eu de nuages. Je veux dire que.
Allez,
moi,
c'est parti. Le débat commence déjà. On revient dans un instant avec Pierre Ducrot, Jérôme Rotten, Daniel Riolo et un des auteurs de l'Odyssée du 10. Ça
tient un peu d'orage à ma gauche.
RMC. L'After Foot. Nicolas Jamain.
Et oui, l'After est là jusqu'à minuit, 22h30, vous écoutez RMC et vous regardez l'After sur RMC Sport News, bien sûr. Pierre Ducrot, Jérôme Rotten, Daniel Riolo et nous rejoint à l'instant Raphaël Cosmidis. Salut Raphaël.
Salut Nicolas.
Auteur avec trois camarades que je vais citer, Philippe Gargoff, Christophe Kuchli et Julien Momont de la maison d'RMC Sport, de ce magnifique livre. L'Odyssée du 10, dont on parle dans un instant, évidemment, j'allais dire livre à la gloire, pas forcément, mais livre en tout cas qui rend hommage quand même à ce poste le plus romantique du football.
Ouais, qui là, c'est une question. Qui pose beaucoup de questions, du coup, sur ce qu'il est devenu, ce qu'il
le passé,
été,
le présent et l'avenir.
Qu'il est un peu de tout, ouais. On a essayé de l'étudier sous tous les angles. Malheureusement, on n'a pas cité Jérôme dans le livre.
Mais numéro 10, mais comment tu veux?
Mais non, mais je sais qu'il va être vexé, c'est pour ça.
Mais non, parce qu'il y a 487 pages, il n'y a pas le nom de Jérôme Rotten dedans.
Il fallait jouer plus d'une saison pour être dans le bouquin.
Mais par contre, j'ai déjà joué numéro 10, contrairement à ce que dit Daniel. Même Pierre,
tout le monde a joué un peu parce que j'avoue que j'ai oublié ma carrière un peu plus.
Ma carrière était quand même sur le côté.
Bon, alors allons-y, Jérôme, tu as joué qu'en 10 parce que.
À Bastia. À Bastia.
Oui, parce que t'étais seul à pouvoir jouer.
Ah non, bah, il fallait que je fasse lever un peu. Non, parce que le numéro 10, normalement.
C'est parce qu'il pouvait plus jouer sur le côté.
Non, mais un petit peu de ça au départ.
Le 10, c'est le soleil avec des rayons.
Mais oui, donc en fait.
Toi, tu mettais les rayons sur le côté.
Au début, mais à Bastia, j'ai. Bien sûr que pour faire lever les foules, t'es obligé dans ces clubs-là d'avoir un numéro 10 qui arrive à bien manier le ballon, à toucher souvent le ballon, c'est le cas.
et de tous ces numéros 10. Et à Bastia, bah, je l'étais.
T'avais demandé à l'être ou on t'a dit c'est toi, Jérôme, notre numéro 10?
J'avais un peu de demandé. De toute façon, tu sais, on parlait tout à l'heure de Zidane rien, qui faisait bouger, l'équipe. Bah, Bastia, c'est pas Fred Hans qui faisait l'équipe.
Pierre, toi qui as grandi en étant.
Je me mettais où je voulais.
T'étais sélectionneur, quoi.
En étant un le peu. Mec qui était justement pas le 10, mais qui historiquement
juste derrière.
Était le gars pour
arriver. Était l'orageux.
Moi, j'ai adoré faire ça.
L'orageux.
Que tu as adoré faire ça, oui, mais est-ce que tu as un moment de ta vie ou de ta carrière nourri.
J'aimerais faire ça.
Non, nourri un complexe par rapport à ça.
Non, parce que.
Le 10, c'était le beau, et que toi, en gros, bah, en gros, le bon.
Travailleur de l'ombre.
Non, je vais te dire pourquoi, parce que ces mecs-là, alors après, c'est une qualité différente et qui est moins valorisante, certes, mais n'avaient pas les qualités pour faire ce que moi je faisais.
Exactement.
Et donc, moi, je.
Alors, c'est ce que disait Claude Puel aussi quand
alors,
tu parles
de donc tu t'en sors avec ce que tu fais.
Claude était un peu obligé de dire ça.
Parce que ça, en revanche, moi, j'en ai beaucoup entendu. Est-ce que tu as senti.
La reconnaissance de ces gens-là pour.
Chez le 10, une forme de mépris pour le 6.
Ah non, moi, très, très souvent. Alors, non, jamais. Avec ceux avec qui j'ai joué en plus. Non. Alors je peux dire que non. Alors autant moi j'ai toujours mis en avant ces joueurs-là parce que j'étais pas capable de faire ce qu'il fallait. Mais les 10 dans les équipes, je peux te dire qu'ils te remercient à chaque match de
bosser,
de récupérer les ballons et de leur donner.
On a parlé à certains que t'as connus, puis on a parlé notamment à Jean-Michel Badiane qui a connu aussi d'autres 10 de la même époque que toi, parce qu'il a connu Okocha, il a connu Ronaldinho. Mm-hmm. Et il disait au contraire que souvent c'est eux qui viennent te voir pour t'aider. Il disait qu'Okocha l'a emmené en voiture, que Ronaldinho l'a fait s'entraîner avec la sélection du Brésil pendant une bonne période.
Ils sont très reconnaissants de ça.
Alors les époques ont changé parce que à une époque. Ça a été, enfin moi je n'ai que deux exemples. Alors je peux pas dire à une époque, mais je trouve que c'est à peu près la même. Je crois que Platini était reconnaissant envers Luis par exemple.
Non, il avait pas de mépris envers Luis. Il avait peut-être du mépris envers des six qui lui taquinaient un peu les chevilles,
non, mais lui,
qui ne pensait pas à jouer
toujours,
au foot, qui
lui,
pensait
il avait
qu'à
toujours le... besoin du six dans son équipe aussi pour lui faire un peu le nettoyage et tout. Il avait le mec qui s'occupait de ça. Mmh. Mais il avait quand même, il y avait une sorte d'aristocratie.
Parce que c'était une époque où le 10 défendait pas du tout aussi, Daniel.
Voilà.
Préciser dans le rapport.
Exactement.
Il y avait une forme d'aristocratie. C'est en gros, à toi le sale boulot, c'est moi qui vais faire briller l'équipe.
Et ça. Et Luis, moi, ma génération n'a pas connu ça.
Même si Ronny défendait pas.
Non, mais Rai non plus ne défendait pas.
Ronny
non plus. Valdo, moi j'ai commencé au PSG, il y avait encore Valdo. C'était un bonheur de le voir jouer.
Et le mec défendait pas.
Tu savais qu'il n'allait pas.
Mais justement, là tu n'en voulais pas finalement.
Non, parce que ça faisait partie des choses.
Tu acceptes ça?
Surtout
que le 10 brille mais qu'il ne travaille pas.
Cette époque-là était bien différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les 6 doivent y aller aussi.
Alors justement,
etc. Attends, je finis.
Vas-y, Daniel, finis.
Donc, Luis m'a raconté qu'à un moment, ça avait été compliqué avec Susic, autre énorme 10, mais qui,
bien sûr,
pour le coup, avant de se salir et de défendre, il fallait lui demander. Et qui, une ou deux fois, Luis lui fait une passe qui n'arrive pas dans les pieds, et Susic s'énerve en lui disant, mais qui c'est que ces passes de merde et tout. Et Luis est allé voir, il fait, attends, là maintenant tu vas arrêter tout de suite, si tu veux que je travaille pour toi et qu'on bosse pour l'équipe.
Ah, respecte-moi.
Tu me respectes un petit peu.
Ça, c'est une question de personnalité aussi.
Susic a changé d'attitude après, mais Luis a eu besoin de se. Et pourtant, au lieu de
se respecter comme
Dieu
ça.
Je sais que Luis était
oui, se fait
le
pas manger dessus.
Mais t'as service de tout le monde.
Vas-y, Raphaël.
La situation inverse sur les passes au PSG où Badiane raconte que quand il jouait avec Okocha et Ronaldinho, il n'attaquait pas des espaces qu'il jugeait impossible à attaquer. Puis Okocha et Ronaldinho lui disaient, mais vas-y, on va te trouver, hein, t'inquiète pas. Et du coup, il attaquait des espaces qui n'avaient aucun sens pour lui. Il nous raconte, vous connaissez, il est de la maison, il
avoir joué deux ans avec Didier Okocha.
Les ballons arrivaient, mais il y croyait pas du tout.
On était censé être 2-6, mais au bout de 3 minutes dans le match, il y avait un 10.
Bon, les gars, il n'y a pas que le PSG dans la vie.
Non, mais
on profite du témoin.
Non, mais je plaisante.
GG, il était toujours devant le 6 et il savait faire ça et c'était sa place. Et en plus, c'est une époque aussi où les milieux de terrain n'avaient pas le même rôle. Les 6 en tout cas n'avaient pas le même rôle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'existe plus.
Alors,
un 6 qui reste devant la défense.
Il aurait fallu demander à Okocha et à qui tu m'as dit, à Ronaldinho, que quand lui donnait le ballon, est-ce qu'il revoyait aussi le ballon?
Ça dépend
à Jean-Michel
fois.
Badiane.
Ouais.
Il le trouvait, mais
je suis pas sûr que ce soit les exemples.
Non, il y a d'autres exemples. On va dérouler. Daniel, j'ai juste qu'on a lancé un hashtag, mon 10 de cœur qui cartonne, hein, qui est en tendance France. Voilà, des centaines de propositions. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai noté notamment Corentin Martins, Yann Lachuer et Benjamin Nivet. Voilà. Non, mais c'est vrai.
Lachuer était un 8.
Il n'y a pas forcément de sous-10. Il y a 10, quoi. C'est une définition, un 10.
Il n'y a pas de 10, c'est une définition, mais il ne faut pas se tromper.
C'est une nature.
C'est un 8. Il ne faut pas se gourer. C'est un 8.
C'est ça, c'est pour ça.
Alors,
juste la question, les gars.
Corentin Martins à Auxerre était un 10.
Un 10, ouais. Exact.
Ouais,
est-ce que je vous pose la question de base,
Nivet a joué 10 mais a joué aussi dans un autre rôle.
Mais Nivet était,
ouais, mais c'est pour moi un vrai 10. C'est pour moi un vrai 10.
C'est un vrai 10.
Pas toi, tu l'as été formé.
Oui, on a été formé.
C'est la vraie question, une des questions du livre.
Voilà.
Qu'est-ce qu'un 10?
Alors vas-y.
Qu'est-ce qu'un 10? Nous, on a longtemps cherché parce que aujourd'hui, tu demandes la question, tu poses la question à plein de gens. Qu'est-ce qu'un 10? Ils vont te citer un joueur qui va être très dribbleur comme Ronaldinho. Ils vont te citer un joueur qui va être très passeur comme Laudrup. qui sont des joueurs hyper différents dans la manière de jouer.
Pour moi,
même sur les hauts dribbles, sur la prise de balle, ils pouvaient t'éliminer, mais c'était pas
pour moi, pas vrai.
C'était pas un dribbleur comme Ronaldinho qui partait dans des 1 contre 1, des 1 contre 2, des 1 contre 3. C'est pas la même vision du 10. Et nous, on s'est rattaché
du coup à Michael, hein.
Oui, je parle de Michael. Donc pour nous, on est rattaché à la créativité. Et c'est ça qu'on a associé au 10.
C'est la créativité.
À voir et à faire des choses que les autres ne font pas.
Alors dans ces cas-là, c'est pas vraiment que le. C'est pas vraiment que la position sur le terrain.
Aujourd'hui, t'as d'autres postes.
Mais non, mais parce que là,
t'as déjà 15 tours.
Si tu penses critère là, ce que tu dis. Et moi, je suis d'accord avec toi. Et
mais longtemps, ça a été ce poste-là où il y avait le créatif. Oui, le football était beaucoup plus divisé, sectorisé à une époque qu'aujourd'hui.
Mais parce qu'aujourd'hui,
chacun son tour, ce qu'on a du mal.
Non, mais aujourd'hui, le numéro 10 vraiment axial, comme ça a été une époque, ce genre de joueur créatif et tout ça, tu peux les mettre sur les côtés.
Oui, c'est ce qu'on demande bien.
Ou tu peux les mettre un petit peu plus bas.
Laissez finir, Jérôme. Vas-y.
Non, mais c'est ça, c'est pour ça. Donc les systèmes sont peut-être différents. Mais même quand tu commences. Avec sur le tableau noir avec un joueur qui entoure l'attaquant et genre t'es le numéro 10, et ben il peut être dans une autre zone, tu vois, il a beaucoup de liberté.
À l'époque,
par contre,
il avait la liberté de dézonner, aujourd'hui il est obligé de dézonner. Alors qu'à l'époque où toi tu commences, je pense, Jérôme, les défenses n'étaient pas du tout aussi agressives et compactes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui l'espace dans l'axe il n'existe plus.
Mon avis est que la définition créatif est beaucoup trop limitative.
Alors
Parce que créatif, un ailier qui va dribbler va être créatif.
Exactement.
Un mec qui avait ton rôle était un joueur créatif.
Mais c'est pour ça.
Le 10 doit être créatif.
Et génial, quelque part.
Et doit être le
axial.
Patron.
Et axial aussi.
C'est axial. 10, c'est axial.
On est l'image du soleil avec les rayons. Mais pour moi, il doit être le mec qui est au-dessus, qui a une aura sur l'équipe.
Daniel.
Le gars en qui tout le monde fait confiance.
Et puis, tu as une élégance aussi.
Il y a une élégance dans la façon que tu as d'être dans ton rapport avec le ballon.
Bien sûr.
Mais tu dois être. Ça ne peut pas. Tu dois être le patron de l'équipe.
Mais c'est un mot qui revient, Daniel. Excuse-moi, Raphaël. Je donne la parole dans un instant. Dans le bouquin, vous avez interrogé notamment beaucoup de témoins, mais Suodo et Claude Leroy. Ce qu'ils disent, c'est le champ lexical de la lumière qui revient tout le temps. Suodo dit le 10 c'est le plus doué. Alors ça, c'est un débat. Ok. Le plus lumineux.
Souvent numéro 10. Ouais.
Celui chez qui tout est inné, celui qui invente. Claude Leroy dit c'est le soleil qui met la lumière sur les autres.
Ah bah j'ai même image que moi.
Et ça revient souvent. Je trouve que le soleil, la lumière, est associé au numéro 10, à la créativité.
Une image qui est souvent associée quand Ferguson parle notamment de Vérone, c'est il dit le petit oiseau parce qu'il n'arrivait pas à le faire rentrer en fait dans le cadre collectif. Et c'est aussi pour ça que le 10 disparaît petit à petit.
Vérone pour moi est pas un vrai 10.
Alors quand il commence Lazio Manchester, quand il parle de Vérone, il parle d'un 10 à l'époque. Il parle en tout cas de ce que disent les Anglais, un playmaker.
Mais pour avoir joué contre lui en Angleterre justement à Manchester et moi j'étais à Derby, je peux dire que c'était pas un 10 du tout.
Alors au début quand il commence par contre. Au tout début, c'est un joueur qui est censé jouer dans la zone du 10. Qui peu à peu recule, mais comme d'autres ont reculé. Un peu comme Kroos qui commence 10 et qui finit.
Est-ce que les Anglais s'y connaissent en 10?
Alors, ils expliquent, on en parle justement.
Je vais donner ça parce que c'est intéressant.
Si les Anglais.
Daniel, c'est hyper intéressant. Il y a des appellations différentes aussi, des approches de 10 différentes.
Le 10 anglais, est-ce qu'il existe?
Écoute, moi j'ai noté ça.
Le 10 chez eux, c'est l'avant-centre en plus, le numéro 10.
En Angleterre,
c'est le 9 pour nous. Parce qu'il y a cette histoire de numéro.
T'en as quelques-uns.
L'histoire du numéro, vous faites un truc sur la numérologie, c'est extraordinaire. Le numéro. Enfin,
le numéro 10, ça représente quelque chose.
Et d'ailleurs, le 10 en Angleterre, il n'est pas
Daniel,
ce que nous on conçoit.
Écoute, en Angleterre, il y a des appellations différentes. Jérôme, regarde. En Turquie, on dit le Silingir, c'est le serrurier, celui qui déverrouille la porte. C'est comme ça qu'on appelle le 10. En Argentine, c'est le Enganche, le crochet, l'attelage sur lequel s'arrime le jeu offensif. En Angleterre, c'est le Cheating Position, le poste du tricheur.
Oui, parce que c'était vu comme celui qui faisait pas les efforts défensivement.
Mais tu vois, c'est marrant.
Tu sens que
on aime les mecs qui bossent, ils sont pas amoureux du 10
qui donne pas
forcément amoureux du 10.
Chacun son tour. C'était lié aussi à une problématique très simple, c'est qu'à l'époque les terrains en Angleterre étaient catastrophiques, que le jeu se faisait dans les airs et que c'était des 4-4-2, c'était tout comme ça fort et derrière devant deux joueurs.
Non mais c'est une définition différente.
Le ballon sautait ces joueurs-là, c'est pour ça que le Tissier souvent disait qu'à Southampton, on se souvient de sa belle époque, mais il y a eu des entraîneurs qui détestaient.
C'est vrai que le Tissier était un peu
Glenn Hoddle sa meilleure période, c'est Monaco. Il a dit qu'il était content de venir en France parce qu'en Angleterre il pouvait pas jouer comme il le voulait et c'est marrant de voir que les Anglais ont dû s'exporter.
Dans le foot anglais, c'est dur d'en trouver.
C'est dur.
Non, mais c'est vrai que dans le jeu anglais à l'époque.
Non, mais les numéros 10, c'est vrai que ceux qui ont le numéro 10 dans le dos, c'est souvent les numéros 9, quoi. C'est souvent eux qui marquent les buts.
Oui, chez eux, leur 10, et le 9, c'est vrai. En Italie, comment on l'appelle?
Trequartista.
Ouais.
C'est-à-dire traduction
le 3 quarts en fait.
Voilà, c'est ouais. ça, celui du dernier quart du terrain en fait. Ouais, c'est parce en fait, que c'est les 30 derniers mètres.
Il le pose, c'est par rapport
c'est lui qui doit faire la différence
qu'il a qu'il a sur le terrain. Et les en Italie, il y a une grande tradition évidemment du trequartista de Totti à Del Piero.
On a eu Totti ouais qui nous en parle ouais. Qui nous en parle de la Fantasia aussi, il parle beaucoup de ça, le Fantasista
de Antonioni de la Fiorentina.
Mais ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui
l'époque on a eu un
et l'Italie ne forme plus du tout 10 aujourd'hui. C'est très dur de trouver un 10 aujourd'hui.
Ça c'est la question ça.
Ils ont enfin ce qu'ils ont Verratti aujourd'hui donc.
Est-ce que les gars, c'est clairement une voie en extinction le 10 Verratti aujourd'hui.
10.
Oui.
Verratti est un 10 de formation.
Oui, mais il joue 10 mais derrière, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Tu m'écoutais pas. Je te disais que souvent le numéro 10, c'est pas forcément le positionnement. Après, il peut reculer, il peut être plus bas sur le terrain.
Obligé, mais le football aujourd'hui, il a plus trop le choix. Ouais.
Moi, oui. moi, quand je parle de 10, je parle de 10 comme beaucoup.
Oui, toi, tu parles de à l'ancienne,
avec le romantisme.
À l'ancienne, oui.
C'est-à-dire le 10, c'était
oui, le 10,
mec un peu délesté,
c'était
des charges défensives qui avait son adjoint le 6 pour faire le travail. Son autre adjoint qui était le 8, le relayeur, et puis lui, il était en fait le roi sur son trône qui distribuait, qui débloquait les situations, tu vois.
Et d'ailleurs, on a regardé des matchs de Pirlo au début, quand il jouait à Brescia, à l'Inter, en position de vrai 10. Et c'est très très difficile déjà pour lui à l'époque, parce que dans la vivacité,
bien sûr.
Se retourner à 2-3 quarts, faire la première touche, se reculer,
il n'arrive pas à le faire. Lui, le génie, ça a été de le replacer plus bas.
Et il a laissé quelque part l'évolution suivante.
Est-ce qu'il n'a pas tué un peu en partie, pas que lui, le poste du numéro 10, qui est en voie d'extinction?
Il a créé
un poste, clairement.
Il l'a fait vivre ailleurs aussi, parce que si tu ne l'as pas plus bas, il faut se souvenir du foot du milieu des années 2000, en dehors de Pirlo, au milieu de terrain. Alors tu as des 10 qui ne défendent pas comme Zidane, mais tu n'as pas de créatif plus bas sur le terrain.
Daniel. Les Italiens ont un peu écréé et détruit le 10. J'en parlais juste quand Raphaël est arrivé. C'est évoqué, vous parlez de tout dans votre bouquin. Mais Baggio, qui est 10 à la base, à la Coupe du Monde 90, à la Fiorentina, quand il arrive dans les grands clubs, il devient en fait le deuxième attaquant. Et Platini invente pour lui la définition. Il l'appelle le 9,5. Et je crois qu'à ce moment-là, on tue un peu le 10. Après, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres des 10, évidemment. Mais c'était tellement fort et symbolique de voir Baggio à ce moment-là, dont on ne sait plus quoi faire dans un foot moderne. Et rappelons quand même que l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps a un peu tué Baggio, parce qu'en plus, il ne l'aimait pas.
L'influence de Sacchi.
C'est Sacchi.
Et son système de jeu.
Exactement. Le système qu'on a, il n'en veut même plus de Baggio. Et ça, pour moi,
c'est fou.
Crève-cœur absolu, quoi.
Bah, la Coupe du Monde 94 où l'Italie va en finale, les Italiens détestent leur équipe, ils trouvent que ça joue très mal, Baggio s'énerve, Baggio ensuite quand il va avec Lippi, il dit le narcissisme des entraîneurs est en train de tuer les 10.
Ouais.
Aussi peut-être parce que l'entraîneur a aujourd'hui ce rôle de création du jeu et de conceptualisation du jeu plus que le 10 à l'époque.
Et que l'entraîneur veut
c'était allez jouer les gars, on vous fait confiance, vous allez
créer. Qui encore 10 aujourd'hui.
D'ailleurs le 10 on lui donnait les clés comme Hidalgo les donnait à Platini, c'était le mec qui tirait les coups francs et d'abord il fallait qu'il sache tirer les coups francs.
Et puis je vous écoutais parfois, c'était même celui qui décidait de la compo et de qui tirait quoi. Donc,
avec qui je vais me sentir bien pour que moi je m'exprime quoi.
Aujourd'hui, l'entraîneur est au-dessus de tout, les joueurs.
C'est une des raisons qui explique la disparition du 10.
À l'exception peut-être de Messi. Et c'est pour ça que Omar Da Fonseca pour la préface dit
Messi est un 10.
Dernier 10. Ah bah Messi aujourd'hui est un 10.
Aujourd'hui,
Messi décide de tout à Barcelone.
Jérôme.
Il décide de tout.
Ah oui, dans l'esprit.
Sur le terrain, c'est lui qui crée les choses.
Oui, mais alors,
c'est toujours.
C'est toujours.
Chacun son tour. Pierre, vas-y, Pierre.
Attends,
Raphaël. Messi décide d'être où il veut sur le terrain. C'est pour ça que c'est un 10.
La plupart du temps, il est pas axial, justement. Donc, il faut enlever axial de la définition du 10.
Alors, le 10 aujourd'hui, axial, tu vas avoir du mal à les
défendre. Bien sûr.
Mais aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus d'un 10, c'est le seul qui n'a le droit de pas défendre. C'est Messi.
Mais dans l'évolution de Barcelone, là je rejoins c'est Omar qui a dit ça.
Ouais.
Ouais, je rejoins Omar depuis un an où Barcelone joue beaucoup en 4-4-2, du moins un 4-4-2 avec deux milieux défensifs qui sont très joueurs, mais ils sont quand même défensifs, et avec un Messi qui est libre en effet, qui peut dézoner, mais qui à la base part de l'axe. C'est plus le Messi côté droit, le 4-3-3, et voilà.
Donc il a évolué.
Il est aussi beaucoup parti de l'axe à l'époque avec Guardiola, où ce faux neuf quelque part, c'est la réinvention du 10 également.
Mais oui,
c'est terminé aujourd'hui à Liverpool, que vous voyez souvent. Quelque part, c'est le 10 de Liverpool.
C'est pas faux.
Et l'autre 10, on en parle aussi, c'est Arnold. C'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, les latéraux, c'est les seuls qui ont du temps pour jouer.
Ouais, mais là, j'ai du mal à dire que Firmino est un numéro 10, parce que Firmino.
Mais souvent, il recule.
Oui, d'accord,
il joue
dans la même zone que jouer,
souvent,
où jouer les 10.
Il joue pour les deux autres, je l'ai souvent dit, moi. Il se met comme ça.
Ouais, c'est vrai. Mais sauf qu'il fait des choses dans la surface de réparation que.
tous les autres numéros 10, ceux qu'on de l'époque ou même certains encore aujourd'hui qui jouent pas forcément dans ce système-là ne vont pas faire. Tu vois, Firmino, il peut se transformer sur des matchs, j'en ai vu, en vraiment le joueur de surface.
Mais il marque encore moins.
Et là dans ces cas-là, tu dis c'est plus un numéro 10,
Mais il marque très peu de buts pour un.
Les gars, bon, c'est le feu sur Twitter.
Moins de buts qu'un quelqu'un.
Raphaël, Jérôme, Pierre, Daniel, c'est le feu sur Twitter évidemment sur nos réseaux. Direct Studio, beaucoup de propositions, beaucoup d'appels au standard également. Donc on va prolonger le sujet parce que c'est passionnant, il y a plein de choses à évoquer.
Le numéro 10
qui est encore 10 aujourd'hui,
le
par
numéro
exemple.
10 doit savoir tirer les
est-ce coups. Est-ce que le 10 va revenir un jour?
Ah oui,
c'était essentiel ça pour moi.
Est-ce que c'est votre poste préféré évidemment, votre 10 de cœur? Il y a énormément de choses à dire sur ce poste.
On le donnait à chaque Coupe de France.
Il y avait l'analogie,
on changeait le numéro.
D'ailleurs, vous faites dans le bouquin le 10 du rugby. Ouais. C'était lui qui tirait les
qui
pénalités.
Tout, c'est ça.
C'est lui. Et le 10, il y avait un truc à tirer.
On a du temps encore. Exactement. On est ensemble. Rugby, on est ensemble jusqu'à minuit avec Pierre, Jérôme, Raphaël et Daniel. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamas.
Et oui, l'After est là jusqu'à minuit avec Pierre Ducrot, Jérôme Roten, Daniel Riolo et Raphaël Cosmidis, auteur d'un livre intitulé L'Odyssée du 10 aux éditions Solar. Gloire au 10, le joueur le plus romantique. C'est un terme qui revient souvent pour qualifier ce profil.
On n'a même pas cité une seule fois Maradona.
Alors, c'est le personnage central du livre aussi.
C'est vrai, t'as raison.
C'est possible. Quand on parle d'aura, évidemment, c'est lui. Et quelque part, c'était un 10 moderne parce qu'il avait le côté athlétique, c'est-à-dire qu'il faisait des différences par sa puissance, par sa vitesse d'exécution, par sa vitesse sur les 2-3 premiers mètres. C'est un des quelques 10 des années 80 qui pourrait jouer aujourd'hui vraiment et avoir le même niveau exactement.
Ouais, je pense aussi, t'as raison.
Alors, attendez, je vais faire gagner des cadeaux là, avant de reprendre le débat sur le poste de numéro 10. Pas encore, bientôt. RMC Chronopost vous offre une soirée Ligue des Champions ici. À RMC Sport avec la Dream Team Ligue des Champions. Pierre Ducrot, Jérôme Roten, Christophe Dugarry, Jean-Louis Tour également. Voilà.
Tout le monde fait pas rêver. Hein.
Venez le mercredi 27 novembre dans les studios d'RMC, profitez d'une soirée en coulisses, en plateau, à côté de nos consultants, à l'occasion des matchs Zénith Lyon et Lille Ajax. Pour gagner vos places, c'est extrêmement simple. Vous envoyez top par SMS au 732-16. Top par SMS au 732-16.
Trop.
Bonne chance.
Découvrez les coulisses des studios lors de votre soirée foot avec Chronopost, livreur d'émotions.
Tiens, beaucoup d'appels au standard, au 32-16 bien sûr, avec Tariq, 32 ans. Salut Tariq.
Salut tout le monde.
Et bienvenue dans l'after, merci pour ta patience. Bon, c'est qui ton 10, toi, de cœur?
Mon 10 de cœur, bon, je vais être original, c'est Zizou, c'est Zidane.
Pourquoi?
Pourquoi? Après, c'est peut-être, je pense que c'est générationnel aussi, parce que je pense que Daniel... aura un autre avis, et Jérôme aussi, je pense. Pourquoi? Parce que moi, je pense que il a réinventé des choses ou il a inventé des choses. Que ça soit ses gestes, la roulette. Pour moi, dès que je vois une roulette, je pense à Zidane. Le contrôle, les contrôles de balles qui étaient face à un joueur ou deux joueurs sur un seul contrôle. Le contrôle porte-manteau. Il marquait, il faisait des passes, il était bon du pied droit, pied gauche. Et surtout, il a porté toutes les équipes, que ça soit à la Juventus, que ça soit au Real ou que ça soit avec l'équipe de France. Pour moi, un vrai.
Non, pas la Juve, non, ça c'est pas vrai.
Oui, il les a moins portés non, que le Real ou que. Mais il a été performant à la Juventus.
Oui,
ils ont un meilleur souvenir de Nedved.
Voilà, il les a plus déçus que.
Oui.
Voilà, Nedved par exemple est plus haut dans l'estime des Juventini que Zidane. Mais c'est juste une rectification historique. Mais le reste, t'as raison. Après, oui. Après, il est génial. Après, c'est juste là, à ce moment, pour les supporters de la Juve, Zidane, c'est moins important.
Côte-moi, Tariq, je te rejoins parce que c'est vrai que même encore une fois, le positionnement avait évolué et rarement il a été mis sur le tableau noir numéro 10 en équipe de France. Tu vois, moi, quand j'y étais, c'était côté, souvent sur un côté.
Ouais,
après, il avait cette liberté naturelle parce qu'il avait besoin de toucher le ballon, donc il repiquait souvent dans l'axe, et ce qui donnait la possibilité à des joueurs comme moi aussi d'exister à côté, c'est des joueurs de côté. Il avait tout, le contrôle, l'imagination, la vision, voir avant tout le monde.
Ce qu'a dit Tariq, c'est qu'il avait des gestes, c'est ça aussi, un 10, c'est des gestes.
Il a même réinventé pour moi des gestes, et que ce soit le contrôle de balle avec la semelle, il avait une gestuelle qui est vraiment à part. Quand on parle de Pablo Aimar, je compare un petit peu à Maradona, ils ont des, ils sont un peu comparables. Moi, je trouve qu'aucun joueur n'est comparable à Zidane parce qu'il avait vraiment sa gestuelle à lui.
Ouais, c'est vrai.
On le comparait souvent à un danseur sur le terrain. Et pour moi, c'était vraiment ça.
D'ailleurs, on a interrogé un chorégraphe de danse qui a analysé les mouvements de Maradona, de Zidane, de Pelé. Il les compare à des danseurs reconnus et renommés. C'est intéressant de voir la différence entre Maradona et Pelé, par exemple.
C'est vrai que Zidane, par rapport à Pelé, Maradona, après, c'est difficile de comparer les générations, mais Zidane, ce qu'il avait, c'est vrai que c'est quasiment zéro déchet, quoi. Maradona, dans son jeu, t'es obligé d'avoir du déchet.
Après, zéro déchet, c'était quand même quelqu'un qui prenait énormément de risques dans son jeu de passe.
Oui, mais il y avait
pas mal de ballons perdus.
Je te parle pas dans son jeu de passe.
Dans le jeu
je te parle
du 10,
zéro déchet, dans tous ces contrôles de balles, les orientations. Vraiment, moi, pour avoir évolué à ses côtés, m'être entraîné, avoir joué contre lui, c'est ça qui m'a choqué le plus sur Zidane.
Oui, tu parles de ça quand tu vas dire déchet.
C'est, tu te dis, putain, le mec, c'est toujours le bon contrôle. La semelle, pas la semelle, contrôle ouvert, contrôle fermé, à l'extérieur du pied, toujours la bonne orientation.
Contre-pied, ouais,
c'est ça qui est incroyable. Vraiment, c'est ça qui est incroyable. Parce que ça va tellement vite. Et Pierre, il ne peut pas me contredire
ça,
là-dessus.
C'est presque plus de la technique, c'est en haut que ça se passe.
Ah non, mais c'est. Oui. Ah ben non, mais bien sûr.
C'est qu'il voit, un petit peu avant tout le monde.
Bah, un peu beaucoup, même. Un peu beaucoup.
Vous savez, souvent le palmarès ou la façon dont ils sont restés dans le cœur des gens fait que tu t'en souviens, mais si tu parles de qualité football, un mec comme Francescoli, mecs comme Totti, pas grand chose à envier à Zidane au final. Tu vois, c'est juste que ils ont marqué différemment, mais pour moi les 10 c'est quand même une race un peu à part, quoi. C'est des mecs. T'as plein de mecs qui sont très talentueux dans ce groupe-là. Moi, j'arrive même pas à vraiment les distinguer. Chacun a ses petites préférences.
C'était au-dessus Zidane de Francescoli quand même, non?
Non, mais Zidane est au-dessus de Totti.
Daniel.
Zidane est au-dessus de Totti, franchement.
Zidane, ce qu'il avait d'un grand.
Oui, Mais
Totti, Zidane, quasiment sur la même côte.
Ah ouais, mais même Francescoli.
Vous savez quoi, on en parle dans un instant.
Mais d'accord, Jérôme. Pas Totti. Totti, moi, autant Francescoli, j'ai pas joué contre lui ni rien, mais Totti, tu vois.
Tu
vois,
tu te trompes, hein.
Ok, Jérôme.
Je l'ai vu.
Il finit meilleur passeur d'une Coupe du Monde qui remporte.
Non, mais attention, allez pas me dire que Totti est un joueur de merde, c'est pas ce que je suis en train de dire. Loin de là.
Il est de la même caste, hein.
Non. Franchement.
Éric Elmé, pareil.
On continue le débat dans un instant sur Zidane. Mais sur un instant, je vous donnerai le 10 de cœur de Ludovic Obraniak.
Ah, bien sûr, oui.
Très bien. Obraniak, je vous laisse imaginer. Obraniak, Ludo, son 10 de cœur, qui sait. On vient dans un instant avec Pierre Ducrot, Jérôme Roten, Raphaël Cosmidis et Daniel Riolo. À tout de suite.
Ça, je le mets pareil.
RMC, 21h30, l'afterfoot.
So you call yourself a fan? But tell me something. Do you know your Backmans from your Abrahams? Or your Jepsons from your Klopps? The People's Club needs all its people. You never walk alone, and neither should they. It's only united when we are. Get the idea? Because when you support a club, you support all of it. Watch the Barclays FA Women's Super League on Sunday, the 17th of November. Visit the FA.com/Women's Football Weekend. It's all to play for.